Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Tim Dugas.
Bonsoir à tous, quel bonheur de vous retrouver pendant 2 heures et quel bonheur de réentendre les meilleurs moments de Tim Dugas. L'émission, c'est en direct du lundi au jeudi entre 18h et 20h, même lorsqu'il n'y a pas de match en France. Et le samedi, le dimanche, on se remémore les meilleurs moments. À 19h, un débat original puisqu'on s'est attardé sur la carrière non pas d'un joueur, non pas d'un entraîneur, non pas d'un président, mais d'un commentateur. Le commentateur mythique des exploits du foot français, Thierry Roland. Son partenaire de l'époque, Jean-Michel Larquet, était avec nous dans Tim Dugas et on s'est interrogé. Était-ce le meilleur dans son rôle? Le débat, c'était à 19h jeudi. On se le remet dans l'oreille tout à l'heure après les infos de 19h. D'ici là, journal moyen, l'actu lyonnaise, Juninho a encore tapé du poing sur la table. Il veut changer les mentalités. Peut-il y parvenir? Ce sera le débat tout à l'heure. Mais on va débuter par André Villas-Boas et son profil d'entraîneur atypique, pas forcément carriériste. Est-ce rafraîchissant? On en a débattu. On a aussi commenté l'actu et nos infos Ligue des Champions sur la reprise de la compétition. C'est avec Mohamed Bouafsi cette semaine, Jérôme Rotten et Christophe Dugarry. L'actu de la journée, c'est les infos RMC Sport de Mohamed, donc sur la reprise de la Ligue des Champions. On a quelques infos pour le mois d'août.
Oui, il y a un plan qui se dégage, messieurs, pour la reprise de la Champions League. Une Champions League qui devrait se tenir du 3 au 23 août dans quelques semaines. Cela devrait être validé la semaine prochaine lors d'un comité exécutif de l'UEFA qui va se tenir le 17 juin. Donc c'est une grosse tendance du 3 au 23 août avec ce fameux match entre la Juve et l'Olympique Lyonnais entre le 4 et le 7 ou 8 août. Et ensuite l'entrée du PSG à partir du 12 août. Et la surprise et la grosse tendance du gars Jérôme, c'est que ce serait un Final 8. Donc des matchs de quart de finale et de demi-finale en un match simplement, pas de match aller-retour. Cela devrait se jouer
sur un même lieu.
Oui, sur un même lieu. À Lisbonne, c'est la tendance. Il y a une solution de repli qui est du côté de Francfort en Allemagne. Et dans ce fameux comité exécutif de la semaine prochaine, on va aussi discuter des supporters. Est-ce qu'il faut autoriser les supporters dans le stade à Lisbonne ou à Francfort? Et petite information qui confirme ces tendances-là, c'est que la Ligue de football professionnel et la Ligue 1 devraient mettre les matchs de la première journée, donc le week-end du 21, 22, 23 août, à des horaires différents pour respecter les matchs de championnat. Donc à 19h et non pas à 21h. Finale de Ligue Europa le vendredi 21 à 21h et finale de Ligue des Champions le dimanche 23 à 21h.
Quelle est votre première réaction? Vous trouvez ça dommage qu'on passe par un Final 8 donc et que la compétition ne soit plus la même qu'avant avec des matchs secs en quart et demi?
Bon, est-ce que tu avais le choix, mon Jean-Louis? Non, bon, ça va faire une belle compète. Voilà, Final 8, ça va être passionnant, ça va être intéressant. Voilà, ça restera des belles équipes. Bon, voilà, fallait faire quelque chose. C'est la moins mauvaise solution. C'est sûr que de toute façon,
ça va pas dévaluer la victoire du futur vainqueur.
Et le futur vainqueur, ben si, bien sûr que le futur vainqueur, ben ça sera moins prestigieux, mais ça restera quand même une belle ligne dans le palmarès. Mais ça sera forcément moins prestigieux. Et oui, et ça sera, après, il va falloir s'adapter aussi sur un match. Comment ça va se jouer? Ça sera peut-être un peu plus spectaculaire. Il y aura moins de calculs. Non, c'est pas forcément une mauvaise idée. Hein.
Moi, ça me choque pas. Ça pense quoi, Jérôme?
Écoute, on s'y attendait plus ou moins. Alors, on avait entendu parler d'un Final Four plutôt au départ. Après, en effet, comme le dit Mohamed, c'est un Final 8. Le problème à
voilà
ça, c'est que
anglais.
Ouais, t'as vu, c'est pas mal. Je dois être bilingue comme toi en fait. Voilà, je pense que ma période écossaise a été comme la tienne en Angleterre, pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai du mal à saisir. Je comprends Dugas ce qu'il dit par rapport à ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore, parce que il existe encore ce virus. C'est pas réglé partout, mais on va dans le bon sens quand même. Et vu qu'on va dans le bon sens, je me dis que pourquoi pas avoir essayé d'avoir gardé plus ou moins la formule qui était celle prévue, quoi, avec des matchs. Alors moi, on me dit c'est en termes de calendrier, c'est compliqué de faire des matchs aller-retour, de passer d'un pays à l'autre. Peut-être que toutes les frontières ne permettront pas ça au mois d'août. Et encore, ça, j'en doute, parce que apparemment, on parle même dans certains pays et même en France de remettre du public fin juillet dans les stades. Donc, je me dis.
Disons que si tu veux faire ça, il faut commencer vraiment mi-juillet, quoi. Tu vois,
il y avait quelque chose à faire. il y avait quelque chose au moins à faire pour le quart de finale. Après, si tu veux organiser une finale à 4 sur un lieu comme à Lisbonne, là, avant c'était Istanbul, maintenant c'est Lisbonne ou l'Allemagne, pourquoi pas. Mais à 8, ça
fait
me dérange un peu.
Coupe, ça
mais
fait bon. Une formule Coupe du Monde, une formule Championnat d'Europe, de la grosse compétition internationale. Bon.
Moi, je suis pas sûr qu'il y ait plus de spectacle, comme tu l'as dit, Dugas.
Non, tu crois pas?
Bah, sur un match sec, justement, tout le monde va avoir peur de. Non? Ouais, les matchs de Coupe du Monde, les matchs à élimination directe, c'est pas les plus spectaculaires à ce moment-là.
Après, elle sera un peu, bah, ce sera un quart de finale, à partir de les quarts de finale, c'est en général pas mal, mais après, elle sera un peu dévaluée aussi, cette Ligue des Champions. Il y a peut-être des équipes qui vont se lâcher en se disant, bon, voilà, elle est un peu tronquée, cette Ligue des Champions.
Peut-être,
je sais pas.
Non, mais ça peut rendre des matchs un peu fous, hein, on est d'accord. En plus, je dis pas que les équipes vont arriver à 50% de leurs moyens physiques, mais elles seront pas à 100% pour la plupart.
Ouais, mais donc, si tu l'équipe, imagine une équipe qui doit affronter le Paris Saint-Germain ou Lyon en espérant qu'ils se qualifient. Ouais. Il faudra mettre l'intensité parce que tu sauras que le Paris Saint-Germain ou Lyon, ils n'ont pas eu de super préparation, ils ne sont pas au top physiquement. Ça va dépendre des niveaux de forme des uns et des autres. Et puis,
c'est même plutôt une bonne nouvelle pour le PSG et aussi pour Lyon. Ouais. Parce que quand on parle de manque de rythme, sur un match, c'est beaucoup plus facile à gérer que sur deux matchs.
C'est clair.
Et donc, Paris n'a jamais été aussi proche de gagner la Champions League. En trois matchs, le PSG peut remporter la Champions League.
Problème, Momo, là-dessus, c'est que, en effet, moi, je te rejoins sur le premier match parce que tu peux être surprenant. Même toi, des fois, tu te surprends après une préparation où t'as eu très peu de matchs à faire un match, un très grand match.
Il n'y a que Jean-Luc qui ne surprend jamais.
Le problème c'est de remettre ça 3-4 jours après pour le PSG, je le souhaite qu'ils gagnent déjà ce quart de finale et qu'ils arrivent en demi-finale, mais le quart de finale, la demi, ça arrivera 4 jours après, on est d'accord.
Ça
va aller vite,
du 12 au 23. Le PSG est attendu le 12. Donc 12, 13, 14, 15, il y aura les demi. Et après, il y aura. Non, les quarts, pardon. Et après, il y a la demi qui va arriver le 17 ou le week-end du 17-18. Et après, on va jouer la finale le 23.
La difficulté dans ces cas-là, quand t'es pas prêt à 100%, c'est d'enchaîner. Bien sûr, le match entre les deux, c'est le plus dur. Hein. Pour le PSG,
Jean-Michel Aulas.
Pour Lyon, parce que Lyon peut se qualifier.
Jean-Michel Aulas a annoncé l'organisation de tournois au mois de juillet lors de la conférence de presse de présentation de Kadewere, la recrue, disant
un beau tournoi de sixte avec
8 équipes réparties en deux groupes. On va faire ça garçon-fille, tout ça au Groupama Stadium. Donc il est prêt à s'organiser.
Il a dit ça dans le sens où il essaye de confirmer ce tournoi avec le PSG. Du gars, quand on parlait de la difficulté des matchs amicaux, ils sont en plein dedans. Ils n'arrivent pas à trouver d'équipe pour jouer ce fameux tournoi. Il manque encore 6 équipes pour disputer ce tournoi la semaine du 25 juillet et c'est très 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 compliqué à organiser.
Bon, voilà pour ce calendrier et le mois de et l'été qui arrive. Oui, Nugat, tu voulais ajouter un mot?
Non, mais si tu te tapes le PSG sur des matchs amicaux comme ça et tu prends que des tartes, faut prendre un peu confiance quand même, faut arriver à gagner quelques matchs.
Tout à fait. Peut-être qu'ils vont tenir compte. Ouais. Alors, Villas-Boas, tout de suite, on n'a pas réagi aux récentes déclarations de l'entraîneur de l'OM sur la suite de sa carrière. Villas-Boas dit que sa carrière d'entraîneur porterait sur 15 ans. Alors ça, il l'avait déjà dit. Du coup, il dit, on peut imaginer une fin de carrière en 2024 pour moi. Je fais encore un an à Marseille. Ensuite, j'aimerais bien faire une expérience exotique au Brésil ou au Japon, dit-il. Et ensuite, ce sera peut-être le moment d'accomplir son rêve qui est de devenir président de Porto un jour. Alors, est-ce que cet état d'esprit, qui est quand même très rare chez les entraîneurs, on les voit souvent courir après les contrats, les clubs, les façons de rebondir, etc. Est-ce que cet état d'esprit atypique est rafraîchissant? Ce discours est-il rafraîchissant? 32-16 pour en débattre. Mohamed, tu restes avec nous, toi qui connais bien Villas-Boas. Dugas, c'est rafraîchissant d'entendre ça?
Moi, je trouve ça bien. De toute façon, je crois qu'il faut pas être, il y a pas que le foot dans la vie, quoi. Il y a aussi plein d'autres choses à découvrir. Et moi, je trouve ça plutôt enrichissant. Je trouve ça plutôt bien. Après, quand tu peux te permettre de le faire et d'avoir de fixer des objectifs ou des challenges dans ta vie, qui sont différents que de ce que tu as vécu. Moi, je trouve ça plutôt bien. C'est aussi un peu comme ça que je fonctionne. J'aime bien fonctionner par cycle et me mettre des objectifs différents, et puis après ça n'empêche pas de revenir si ça te plaît pas sur certaines choses ou sur certaines décisions, donc Moi, je trouve que dans la vie, quand tu peux te le permettre, c'est bien de pas être prisonnier de quelque chose. Voilà, le foot, c'est moi, c'est ma vie. Mais je pense que malgré tout, il n'y a pas que le foot dans la vie. Il faut essayer d'aller goûter à autre chose, d'aller découvrir autre chose. Il y a des gens pour qui c'est pas possible et ils oseront jamais partir. Ils pourront jamais partir parce que professionnellement, c'est pas possible. Le foot te permet ce genre de choses parce que tu gagnes de l'argent, beaucoup d'argent assez rapidement. Et il faut pas que ce soit toujours une espèce de course à toujours à vouloir en gagner plus. Moi, j'ai toujours été choqué, sincèrement, je te le dis, mon Jean-Louis, par des entraîneurs, par exemple, italiens, comme Capello, comme ouais. Lippi, qui sont des immenses entraîneurs, qui ont gagné des sommes astronomiques, et qu'aujourd'hui, je les vois partir en Chine. Alors, je me dis, bon, la Chine, pourquoi pas, tu tentes l'expérience, mais arrêtons de me faire croire que tu vas en Chine pour le football.
Pour développer le foot là-bas.
Voilà, ça, c'est des conneries absolues. Après, moi j'ai toujours, ça me fait toujours un peu pitié, les gens qui veulent gagner plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, au bout d'un moment, tu vas finir quoi, par le plus riche du cimetière. Je trouve ça un peu naze et sincèrement je trouve ça limite ridicule au bout d'un moment. Et c'est, il y a des choses dans la vie, ta famille, tes petits enfants, voilà, d'essayer de te confronter à quelque chose que tu connais pas, voilà, le monde t'offre tellement de possibilités quand t'as les moyens de le faire. Donc moi j'aime ces gens qui pensent à autre chose que toujours la même chose, les entraîneurs qui courent après leur contrat. J'aime pas cette façon de voir et de faire. Donc je trouve ça super qu'il y a un homme dans le football qui pense différemment que de ce que proposent les autres.
Jérôme, t'es d'accord avec ça ?
Pas surtout. Après que ça soit rafraîchissant, je sais pas. En tout cas, moi, je préfère des hommes passionnés. Alors, je dis pas qu'il est pas passionné, hein, André Villas-Boas, mais son discours, il pue pas l'amour du foot quand même, tu vois. Donc de dire bon bah ouais. Ma carrière d'entraîneur c'était tant. Là, il me reste un an. Derrière, j'ai d'autres objectifs. Alors oui, qu'il ait un objectif à moyen ou long terme d'une ambition plutôt d'être président de Porto, ça se respecte. Maintenant, quand tu deviens président, c'est sûr que t'es plus au bord du terrain, c'est ton quotidien. Quand t'es entraîneur, tu deviens entraîneur. Moi, tous les entraîneurs que j'ai eus, et même encore ceux qu'on voit aujourd'hui, comme dit Dugas, qui passent d'un club à un autre, mais c'est des passionnés, c'est des gens qui se nourrissent du foot et qui donnent énormément au foot. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça qui montrent la voie. Moi, je suis un peu indécis là-dessus sur ce discours. En tout cas, moi, je trouve ça, même pour Marseille, parce que c'est bien qu'il soit resté. Moi, je suis le premier à le défendre par rapport à ce qu'il a fait cette année à Marseille avec son groupe de joueurs. Mais les Marseillais, en fait, tu peux pas t'inscrire dans la durée avec un mec comme ça. C'est un one shot. Il va faire un an. J'espère du mieux possible. Et puis ils savent que l'année prochaine, de toute façon, il va se barrer. Donc, tu peux pas t'identifier à cet entraîneur-là quand t'es un club comme l'Olympique de Marseille. Ben ouais, mais moi, ça me dérange. Tout ça, ça me dérange, surtout quand t'as la chance, parce que c'est une chance pour ces mecs-là, d'entraîner les meilleures équipes.
Après, les mecs, ils lâchent plus. Alors, là, ils sont tellement usés, Jérôme, ils lâchent plus l'affaire.
Non,
aussi.
Mais d'accord, non, mais je comprends.
Au bout d'un moment, je comprends bien la patience. Mais la patience, c'est dur d'être. Faut garder un peu de fraîcheur aussi.
Oui, non, mais là, je te rejoins, mais par moment, sur certains, moi, c'est ce que je reproche, tu le connais mieux que moi, hein, Laurent Blanc, tu vois, c'est ce que je lui reproche, je me dis, mais comment tu peux rester autant d'années après le Paris Saint-Germain sans contrat? Il a eu des propositions, alors peut-être qu'il en a pas senti certaines.
Parce qu'il fait pas sa vie, selon le foot.
Alors non, mais c'est un choix, ça se respecte encore une fois, mais moi je vois pas le foot et je vois pas le métier d'entraîneur comme ça. En fait, moi je pense que les entraîneurs, et encore plus que les joueurs, c'est à eux de montrer la voie, c'est à eux de montrer, encore plus que les présidents, montrer la passion qu'ils ont pour le football. Et à travers ces discours-là, j'ai pas l'impression que ça soit ce que tu remettes en avant. Voilà, c'est tout. C'est mon avis. Après, l'autre, je respecte.
Jérôme, sauf si tu le dis dès le départ. Et la chance, en tout cas, ou la qualité de Villas-Boas, c'est qu'il a tout de suite dit aux supporters marseillais. Moi, je me souviens l'avoir rencontré pour l'émission Comme Jamais. Il avait dit tout de suite, je resterai 2 ans maximum et ensuite je partirai parce que je rêve de Porto. Donc au moins les supporters le savent directement et c'est pas n'importe qui. Il l'a fait pas à l'envers. Et surtout, c'est un entraîneur qui a de la fraîcheur. Et le dernier élément du gars, c'est que Villas-Boas, il sait qu'il a touché beaucoup d'argent. Il le dit, il est honnête, il est parti en Chine pour l'argent. Il le reconnaît. Il dit qu'il a la fierté d'être resté l'entraîneur le plus cher au monde quand il est parti de Porto à Chelsea avec une clause à 15 millions et qu'il a juste envie de profiter de la vie désormais, de refaire le Dakar, de découvrir le Brésil ou le Japon. Japon. Et à un moment, le foot pour lui, c'est pas sa, j'ai pas à dire aujourd'hui c'est sa priorité, mais dans quelques années, il m'avait dit, moi c'est mes enfants, c'est de profiter de certains moments et de ne plus être sur le bord du terrain chaque week-end.
Il veut vivre quand même.
Voilà. Tu le vois sur certains entraîneurs qui te disent, moi j'attends un projet, et puis à l'arrivée les projets ils vont là où c'est le mieux, oui. Où ça, voilà, parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils ont que ça dans leur vie, que le foot. Au bout d'un moment, c'est bon. Je trouve que Villas-Boas, pour le coup, il a le mérite d'être honnête. Ça lui donne une certaine fraîcheur aussi dans ses analyses, dans ses discours, dans ses conférences de presse. On voit qu'il est pas en train de ménager Pierre, Paul, Jacques pour essayer de retrouver un club derrière. Excusez-moi, je préfère le discours de Villas-Boas. C'est pour ça qu'il est peut-être beaucoup plus clair et que ses joueurs apprécient, que celui de Rudy Garcia qui est capable de retourner sa veste. Non, mais voilà aussi l'OM après Lyon, après voilà, il sait même plus s'il confond Lyon et l'OM dans ses voilà. Au bout d'un moment, je préfère un entraîneur comme ça.
On va prendre l'avis de Vincent qui nous rejoint au 32-16. Salut Vincent, bienvenue dans Team Duga.
Merci beaucoup.
Salut tout le monde. Salut Vincent.
Moi, je suis assez d'accord avec la vision de Villas-Boas. Comme vous le disiez avant, je suis plus pour un entraîneur comme ça qui va dire j'aimerais bien faire ça, et puis finir ici. Plutôt que, comme le disait Duga, un Rudy Garcia qui va à gauche, à droite, et il se perd, il sait même plus ce qu'il dit, c'est même. Et c'est surtout que, en plus, il y a beaucoup d'entraîneurs, je pense à des entraîneurs qui sont âgés maintenant, je pense à Ranieri ou des choses comme ça, qui s'entêtent parfois à mettre un style de jeu, à imposer leurs pattes dans des clubs qui n'accepteront jamais ça, et ça peut aussi leur porter préjudice. Autant lui, il gère sa façon d'entraîner, il a dit sur 15 ans, il va le faire sur 15 ans, et après peut-être que le football aura encore changé, peut-être que les nouveaux joueurs auront mis un nouveau style de jeu, et au moins lui, il aura fait son truc, et ces 15 années, il aura été, entre guillemets, bon, il aura fait des bonnes choses, et il ne se prendra pas la tête par la suite.
Et puis sincèrement, un entraîneur, est-ce qu'il est capable d'évoluer? La question, elle est peut-être là aussi, dans sa façon d'entraîner. Un entraîneur, quand je vois aujourd'hui Capello ou Lippi en Chine, ils ont 72, 73 ans. Il ne faut pas me faire croire qu'ils ont évolué avec le football. Et les entraîneurs, souvent, ils ont une façon de voir leur foot, leur organisation. Le caractère des joueurs aussi a beaucoup évolué. Le football a aussi beaucoup changé. Je ne suis pas persuadé que passer 30, 40 ans dans le football, au bout d'un moment, tu es toujours aussi bon, tu es toujours aussi pertinent, percutant, le discours fonctionne toujours avec ces joueurs-là. Au bout d'un moment, il faut laisser la place aux autres. Quoi.
Non, mais 10, Duga, là, tu prends l'extrême.
C'est bon, allez, rideau. Allez.
Non, mais tu prends l'extrême. C'est vrai qu'eux ont un certain âge aujourd'hui, ils continuent d'entraîner, ils ont fait un choix financier. Ok, là, mais ça, je peux comprendre là-dessus. Maintenant, après, il y a aussi le côté de ces mecs-là, même s'ils sont aujourd'hui très fatigués, ils te mettent quand même en avant l'amour qu'ils ont pour ce football, du moins. Pour eux, comme tu l'as dit hein, tout à l'heure, c'est leur vie. Le foot, c'est leur vie. Mais ça se respecte aussi.
Oui, il en faut aussi,
bien sûr.
Il ajoute, Jérôme, il ajoute les actes à la parole, parce que Villas-Boas, il aurait pu accepter une offre de Newcastle cet été avec un énorme salaire pour partir en Angleterre, revenir en Première Ligue. Il a dit, non, la Première Ligue, et d'ailleurs, il l'a dit...
On le sent libre, Villas-Boas,
ouais, non, mais il dit la Première Ligue, ça m'a déçu, et il a même dit, ça m'a saoulé, voilà, le niveau de jeu, c'est trop compliqué, ça fait que s'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas forcément de jeu, j'ai plus envie de ça. Et le dernier élément, il adore Porto, il adore sa ville, il est fou amoureux de son pays, fou amoureux de sa ville, c'est un vrai un vrai supporter du club.
Comme Jérôme avec son chien, quoi, qu'on entend.
Ouais, ou avec le PSG. Voilà.
Oui, il les aime les deux pareil, c'est sûr.
Mais non, parce qu'en fait, il a entendu Porto et tout de suite il a aboyé. Je sais pas pourquoi.
Je croyais qu'il avait entendu Mohamed et qu'il avait aboyé pour ça. Ça m'étonnerait quand même.
Non, pas du tout.
Merci Mohamed. Merci Vincent également d'être venu au 32-16. À bientôt. Salut Vincent. Voilà donc pour ce débat autour d'André Villas-Boas. On revient dans un instant avec Juninho. Il l'a dit clairement en conférence de presse. Ceux qui ne sont pas contents d'être à Lyon peuvent partir. Il veut changer les mentalités, mais peut-il y parvenir? À tout de suite pour le débat.
RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Team Duga.
Le meilleur de Team Duga, c'est aussi le meilleur du journal moyen. Rendez-vous à 18h45 avec Adrien Aigouin qui était en forme cette semaine. Avant cela, le débat autour de Juninho. Peut-il changer les mentalités? Jérôme Roten, Captain Larquet et Christophe Dugarry ont répondu à cette question. Juninho a mis la pression hier lors de la présentation de la recrue. Donc le Havrais, Tino Kadewere, propose de l'écouter et apprendre en débat.
Allô?
Oui, allô.
Si les joueurs ne sont pas contents d'être là, il faut qu'ils partent. Et je pense que des joueurs comme Tino, à part la qualité, il va nous apporter d'autres choses sur le terrain. Ça sent sa joie d'être là. Et on a envie d'amener des joueurs comme ça parce que La saison, elle n'était pas l'idéal, même si elle a été avant 10 matchs. Donc, mais on a envie de faire quelque chose de meilleur cette saison.
Voilà. Alors qu'on lui posait une question juste sur le profil de la recrue, il dit voilà, lui il a envie d'être là et en gros ceux qui sont pas contents, eh bien qui s'en aillent. De nouveau, on a l'impression donc que Juninho veut changer les mentalités. Peut-il y parvenir? 32-16 pour en débattre. C'est son leitmotiv,
oui.
Mohamed.
Ouais, depuis la fin de la saison dernière, c'est son leitmotiv. Il l'avait dit, il avait fait un audit du gars Jérôme Captain sur la situation de l'Olympique Lyonnais. Il trouvait que ça manquait de courage, que cette équipe manquait de courage, qu'il y avait pas de motivation, que parfois c'était compliqué de jouer, d'évoluer dans cette équipe et qu'il y avait des joueurs qui étaient trop gâtés. Il l'expliquait en privé au staff technique et d'ailleurs c'était pour ça aussi qu'on avait choisi Silvinho, un entraîneur capable de mobiliser les joueurs. Ça n'a pas marché. Ça a été une erreur et donc il a souhaité l'été dernier avoir des joueurs qui avaient un peu plus de caractère et notamment aussi au mercato d'hiver avec l'arrivée de Guimarães qui est un joueur quand même de caractère dans un vestiaire. Il a voulu aussi, il a tenté avec Thiago Mendes. Là, ça a été un échec réel. Il a voulu prendre des joueurs de caractère. Ça n'a pas forcément fonctionné l'été dernier. Et là, c'est la même chose. On a envie, on cherche dans les profils que l'OL prospecte des joueurs de caractère. Vraiment, c'est la volonté, l'ambition du club.
Alors, est-ce qu'il peut y parvenir, Duga? Juninho va changer les mentalités.
Excuse-moi, mais c'est exactement le rôle qu'il doit avoir. C'est l'essentiel de son job. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu mets Juninho en tant que directeur sportif, c'est pour ça. C'est parce que les joueurs ont besoin d'entendre un ancien sportif, un ancien joueur, a fortiori une légende du club. Et lui, son rôle, c'est d'accompagner les jeunes vers une mentalité de winner, de gagnant. C'est l'essentiel de son job. Et moi, c'est le football que je veux retrouver. C'est pour ça que moi, j'ai envie, quand je me bats maintenant depuis quelques semaines pour que le football redevienne aux footballeurs, parce que je pense qu'aux footballeurs d'aujourd'hui, il faut leur parler football. Il faut leur parler mentalité, il faut leur parler caractère, parce que c'est ça, c'est le plus important. Des joueurs talentueux, tu peux en trouver, c'est pas le plus compliqué des joueurs talentueux. C'est, ce qu'il faut, c'est, ça doit être une, quand je dis une aventure humaine, elle est là, l'aventure humaine, quand t'as ton directeur sportif qui va te parler aux joueurs, qui va t'accompagner, qui va être là pour régler les problèmes, quand t'auras des questions, quand t'auras des doutes, et bien ton directeur sportif, avec la carrière qu'il a eue, sera capable de te parler, sera capable de te diriger, sera capable de te rassurer. C'est ça le rôle d'un directeur sportif, c'est ça le rôle qu'on veut avoir un petit peu à l'ancienne. On n'a pas pris Juninho pour ses contacts à droite ou à gauche, même si il en a quelques-uns, il était à Los Angeles en train de jouer de la guitare, donc c'est peut-être pas ça son où il est le meilleur. Mais au bout d'un moment, le travail d'un directeur sportif dans un club, pour moi, il est celui-là. Juninho le résume. Et il a vu les manques de son équipe, mais c'est le manque de beaucoup d'équipes et de beaucoup de joueurs actuels et certainement encore plus en Ligue 1. Une mentalité de winner. Qu'est-ce qu'on a gagné en 98? Qu'est-ce qu'on a appris? On disait la culture de la gagne. On a appris cette volonté de chaque minute passée à l'entraînement. C'était pour gagner quelque chose. C'était pour gagner un match à l'entraînement. C'était pour gagner un taureau. C'était pour gagner, finir sur une séance de tir au but, d'être celui qui gagnait les tirs au but. C'est ça, au bout d'un moment, qu'il faut inculquer et qu'il faut retrouver. Et que moi, je trouve que la Ligue 1 a perdu parce que, pourquoi? Parce qu'en face des joueurs, t'as des financiers, t'as des mecs qui sont là pour faire du business, qui sont là pour faire du trading. Donc les joueurs font du trading et les joueurs font du business. Il faut revenir à une mentalité.
Donc quand
de
tu dis ça, c'est le président qui en gros voit son joueur que par la valeur marchande et le futur transfert.
Et le directeur sportif, c'est la même chose.
T'as maintenant et du coup, on lui passe trop de choses.
Et t'as des directeurs sportifs maintenant qui sont intéressés sur la revente des joueurs. Donc qu'est-ce que tu vas lui parler football? Qu'est-ce que tu vas lui le mec? Tu parles argent ou tu parles football? On en est pas là. Souvenons-nous, on a parlé de Klopp, l'entraîneur de Liverpool, qu'il allait voir ses joueurs chez eux, il frappe à la porte à 19h, il disait bon, mais je viens chez vous, je viens boire l'apéro. Non mais voilà, au bout d'un moment, il faut revenir à ça. C'est ce football qu'on a envie d'avoir. Il faut que ce soit un pacte entre le directeur sportif, le président, le joueur, les supporters, les salariés. Il faut revenir à ça. Et si Juninho arrive à faire ça, je trouverai ça tout simplement génial.
Jérôme, c'est possible de faire ça avec la mentalité des joueurs aujourd'hui?
Non mais Duga a bien résumé. Mais est-ce que c'est vraiment étonnant le discours de Juninho? Je pense que ça c'est le leitmotiv de.
Ne pas répondre
de
à ma question plutôt.
Sportif. Non, de quoi?
Est-ce que c'est possible de le faire avec la mentalité des joueurs aujourd'hui, de changer ses mentalités?
Mais tout est possible.
Mais tout est possible. Le tout, c'est que Juninho, bien sûr que c'est son rôle de le répéter, de prendre des joueurs avec Bruno Chéreau aujourd'hui. Avant, c'était avec Maurice. Je pense que Maurice a eu des failles là-dessus, c'est de ramener dans cet effectif lyonnais. Et de toute façon, on l'a senti sur les dernières années. Il manque du caractère, il manque de joueurs qui aient haïssent la défaite, ils se nourrissent qu'à à travers les victoires pour pousser les autres, pour pousser les jeunes. Moi, je veux bien qu'on cite comme exemple Kadewere qui vient de signer. Mais c'est un jeune joueur. Heureusement qu'il est content, lui, quand il arrive du Havre. En signant à Lyon, il passe d'une Ligue 2 à un club comme l'Olympique Lyonnais, qui est le deuxième ou troisième meilleur club français. Donc, automatiquement, il a la joie de vivre. Le tout, c'est de garder cet enthousiasme et cette fraîcheur pendant quelques mois et pas que de l'avoir sur les deux premiers mois. Parce qu'après, t'as l'impression que ça s'effrite à Lyon. Et la mentalité, elle est essentielle, mais elle va pas être amenée par Kadewere ou ces jeunes qui vont arriver. Elle va être amenée par des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont un statut dans le vestiaire et sur le terrain et qui vont accompagner ces jeunes-là pour que eux gardent dans la tête, parce que à 20 ans, 21 ans, 22 ans, tu sais pas ce que c'est la soif de victoire, cette mentalité de la gagne, refuser la défaite.
Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que sa phrase, elle veut rien dire quand il dit lui, il est content.
Non, c'est pas
tout le monde sera content. Non. C'est évident que lui va être content. C'est pas lui
exactement,
qui va faire changer
la mentalité.
Kadewere.
C'est évident qu'il va être content.
Bah oui.
Non. Il en sait rien. Mais il en sait rien.
De quoi?
Mais
comment ça?
Mais pourquoi?
Mais comment?
Pourquoi
il est content Kadewere quand il signe à Lyon?
Bah, il est content, mais c'est pas quand il signe qu'il faut qu'il démontre qu'il est content.
Bah, c'est ce
qu'on
te dit.
C'est quand il joue. Alors là, vous êtes en train de me dire, oui, il est content. Heureusement qu'il est content de signer un contrat qu'il mérite, et peu importe le montant de sa rémunération. Mais c'est sur le terrain. Et en quoi Juninho sait que Kadewere va être content? Parce qu'être content, d'après ce que j'ai cru comprendre entre les lignes dans sa déclaration, c'est être investi, c'est ça, non?
Oui, c'est ça, être professionnel, investi. Voilà, c'est ça, oui.
Mais il n'en sait rien. Il n'en sait rien.
Non, mais à la limite, on lui souhaite. Kadewere, c'est un prétexte, on s'en fiche.
L'an passé, oui. Quels sont les recrues qui sont arrivées avec Juninho? Vous les avez cités. Il y a Thiago Mendes.
Oui.
Jean-Lucas.
Et Ren Adeleide, il est arrivé quand?
Avant. Un peu après la blessure de Payet.
Il est arrivé tout à la fin de l'été, mais avec Juninho.
Bon, il est arrivé avec Juninho.
Oui.
Et par exemple sur ces garçons-là, et notamment Ren Adeleide, qui a un vrai talent, qui est un bon footballeur. Tout le monde s'est plaint, et notamment les techniciens, que parfois il en faisait un petit peu à sa guise, et ainsi de suite. C'est bien Juninho qui les a recrutés. Il était directeur sportif à ce moment-là.
Oui.
Ils étaient contents de signer à Lyon. Il était très content, Ren Adeleide, de signer à Lyon. Thiago Mendes était très content de signer à Lyon.
Alors, où veux-tu en venir?
Mais je veux en venir qu'on verra si Kadewere est content, c'est-à-dire s'il apporte un véritable investissement sur le terrain et pas uniquement au moment de la signature. Et on verra s'il est capable de faire changer de mentalité.
Non, mais Kadewere, c'est un prétexte. Il voulait juste mettre un tir aux autres joueurs.
Moi, je pense que l'idée de Juninho, c'est que malheureusement, il a eu affaire à des joueurs qui ont montré un plaisir de signer à Lyon. Et là, il a vu un gamin. Et peut-être que lui aussi a adapté son discours, a changé son discours, a eu un discours peut-être un petit peu plus franc avec le joueur dans sa mentalité, dans son professionnalisme, dans son envie de réussir. Et je pense qu'il passe un message. Il a été surpris en disant...
Il passe un message, ça, c'est sûr.
En disant, voilà, je suis surpris, entre guillemets, du caractère du gamin qui investit, tout ça. Il passe un message. Et sûrement qu'il a été surpris de voir, quand il a fait signer peut-être les Mendes, les machins, les Silla, de se dire, ceux-là, ils sont arrivés une main devant, une main derrière. On est là, on est content d'être là, mais si on n'est pas là, mais c'est pas bien grave, on ira ailleurs.
Exactement.
Voilà.
C'est exactement ça, Christophe. C'est exactement ça. Avec autour d'eux des gens qui ont dit, écoute, c'est pas grave, si ça se passe pas bien à Lyon, j'ai déjà une touche pour que tu ailles à droite ou pour que tu ailles à gauche. Ouais. Évidemment que c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, eh bien, les joueurs, quand une fois qu'ils ont fait une ou deux bonnes saisons, par la suite, on sent toujours un petit relâchement.
Mais c'est capital, Jean-Michel, c'est capital. On a été joueur, c'est quand même capital d'avoir un directeur sportif, un mec qui est du foot, qui est là, qui comprend tes problèmes, mais qui sait ce que tu vis. Aujourd'hui, en plus,
est-ce que tu as besoin d'un directeur sportif pour essayer de faire de bons matchs?
Je pense qu'il y a certains aujourd'hui qui sont de plus en plus jeunes, qui gagnent de l'argent de plus en plus tôt, qui sont perdus. Oui, mais peut-être. Mais je pense qu'il y en a qui sont perdus bien plus tôt. Moi, j'ai connu, par exemple, à mon époque, que quand on a commencé à faire des bons matchs avec Zizou, des agents qui arrivaient de partout, on savait pas avec lequel fallait signer, on était un petit peu perdu, on était sollicité.
Ça, c'est autre chose, ça.
Oui, mais c'est tout un contexte pour te rassurer. Ta première chérie, ta première fiancée, tes premières sorties. Au bout d'un moment, quand t'as un mec du foot qui te parle, et pas seulement. Oui, mais au bout d'un moment, il y a des gamins peut-être aujourd'hui qui sont sollicités, qui sont peut-être un petit peu plus fragiles qu'on l'était nous, ou peut-être qu'on avait un peu plus de caractère, on avait un peu plus de mentalité. J'en sais rien comment.
Mais ça doit te faire oublier l'essentiel, et Christophe, c'est-à-dire.
Non, bien sûr que non.
Te donner au maximum et faire.
Bien sûr que non, mais il y en a qui ont peut-être tendance à oublier.
Le mieux possible chaque fois que tu es sur le terrain.
Enfin, non, en tout cas,
non, non. Bah,
ça confirme ce que je pense, c'est que Dugas aurait été un excellent directeur sportif. Mais bon, bref.
Mais en tout cas, pour revenir à ce que vient de dire Dugas, c'est que Juninho ne comprend pas comment lui, à son époque, il a pu évoluer avec des joueurs et qui étaient déjà des stars à l'époque pour lui. En tout cas, Chris, Cachapa, Coupé, qui avait une super bonne mentalité. Et lui, il ne comprend pas comment des petits jeunes aujourd'hui qui ont 20, 21 ans dans le vestiaire de l'OL.
Mais parce que ça fait partie du talent, Mohamed. Dans le talent, c'est un des paramètres, c'est un des critères essentiel que celui de bien se préparer, de bien se motiver, de faire les choses comme il faut avant et pendant les matchs. C'est essentiel, ça fait partie du talent.
Ça fait partie de toute
la... Mais c'est pas inné, c'est pas inné. Il y a certains pour qui il faut les accompagner.
Oui. Alors, Jérôme, je crois que tu voulais ajouter un mot.
Non, mais Mohamed, il vient de le résumer. Juninho comprend pas parce qu'à l'époque, en effet, tu viens de citer les joueurs là.
Chris
qui a tout gagné
et que quand t'avais un recrutement, t'avais des joueurs qui arrivaient parce que tous les ans, t'en avais un ou deux qui arrivaient et un ou deux qui partaient. Mais il y avait une base qui était solide. T'avais des repères en fait. Et les jeunes joueurs, en effet, ils peuvent pas tout savoir. Dire quand t'as 20, 21 ans, t'as beau avoir du talent, peut-être que des fois, et encore plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Et Dugas vient de le dire. Je pense que c'est encore plus dur pour les jeunes aujourd'hui parce qu'on leur donne beaucoup tout de suite sans avoir forcément prouvé, et ben t'as tendance à te perdre, ce qui a été le cas du recrutement de Lyon cette année. Et ces joueurs, ils mettent le nez à... je te prends l'exemple de Thiago Mendes, et pourtant c'est pas un jeune joueur, mais Thiago Mendes, quand tu le vois jouer aujourd'hui à Lyon et tu le voyais à Lille l'année dernière, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, le mec, il y a plus de sacrifice, il se bat plus, pas il mouille pas assez le maillot, parce que c'est des grandes phrases, mais c'est la vérité.
Comme bon directeur sportif va lui faire changer.
Je pense qu'un directeur sportif, en effet, il doit l'accompagner et surtout, il doit rendre service à ces joueurs-là en prenant dans le recrutement, parce que c'est son rôle aussi d'amener ça, ce changement de mentalité.
Oui.
Parce que
des deux côtés,
tout seul, Juninho, il peut pas y arriver, mais c'est aussi le rôle du staff technique, hein. Rudy Garcia, on peut pas le dédouaner de tout ça, oui. De cette mentalité. On peut pas dédouaner ce qui se passait sous Genesio aussi. Moi, j'étais le premier à le critiquer. Vous l'avez tous enflammé, Genesio. Mais il y avait des manques de ce côté-là. Il y avait des manques dans la mentalité. Pourquoi?
Alors, est-ce qu'on peut faire le débat Genesio, s'il vous plaît?
Non, mais là, je suis un peu moins d'accord. C'est vrai qu'il a un rôle, l'entraîneur. Je l'accorde. Mais je suis pas persuadé que l'entraîneur, il fait déjà suffisamment de choses, beaucoup de choses. Si en plus, il doit aller s'occuper de tout ce qui est, entre guillemets,
il devrait être délesté de ça.
Il devrait être au moins délesté de ça, à mon avis.
Charles nous rejoint, il est super
extra sportif. Du gars, tu peux pas parler extra sportif.
Quand il parle de la première fois,
là, on parle de terrain. Mais non. On parle de terrain au quotidien, à l'entraînement, l'exigence et tout ça. Bien sûr que c'est un rôle.
Il y a 30 mecs à gérer. Il y a ceux qui jouent. Il y a ceux qui jouent pas. Il y a ceux qui sont blessés. L'entraîneur, il peut pas non plus tout faire. Il est là pour le terrain. Avoir un directeur sportif qui l'aide. Qui c'est aussi un autre discours.
Tu peux pas totalement l'exonérer, Christophe, dans la mesure où j'aimerais savoir, puisque on parlait de
Charles, on arrive après.
Charles, oui. On arrive, Charles. Oui. Thiago Mendes, j'aimerais savoir combien de matchs Thiago Mendes a été titularisé.
Et ben on va regarder. En même temps, on accueille Charles. Salut Charles, bienvenue dans Team Giga.
Salut Charles. Salut Charles. Salut Poulet, bienvenue.
Ouais, merci.
Allez, éclaircis-nous ce débat là. Allez, vas-y.
Hein?
Éclaircis-nous ce débat, vas-y.
Non, moi en fait, dans tout ce que j'ai entendu, je suis d'accord avec toi, Christophe, sur certains points et sur certains avec Jean-Michel aussi. Il y a un point où je suis vraiment en désaccord avec Mohamed Bouafsi qui dit Juninho a fait venir Guimarães, qui est un patron de vestiaire. Il a fait 5 matchs, Guimarães, c'est un patron sur le terrain.
C'est pas ça que je dis, c'est dans le futur, c'est dans la mentalité. Si je dis dans le futur, bien évidemment, on est conscient qu'il a fait que 5 matchs. Dans l'avenir, il a du caractère pour devenir un patron. C'est juste ça qu'on disait.
Ouais, ok. Bon, alors j'avais mal compris, autant pour moi. Maintenant, là où Jean-Michel, où je suis d'accord avec toi, c'est qu'à l'époque, quand on parlait de Coupé, de Chris, de Cachapa, il y avait des meneurs d'hommes, il y avait des guerriers sur le terrain. Et d'ailleurs, on voyait les résultats. Bon, on a pris 7 titres de suite. Et aujourd'hui, les mentalités, elles changent. Moi, je vais vous poser une question. Aujourd'hui, dans l'effectif de Lyon, dans le groupe des 16 ou des 18 joueurs qui sont sur les feuilles de match, dites-moi un seul joueur qui aurait été titulaire à l'époque Douillet en 2004, en 2005, en 2006. Donnez-moi-en un seul. Hormis Lopez, peut-être, et encore, je ne sais
et
pas.
Encore, oui. Ouais, voilà. Non, il n'y en aurait pas. Moi, je pense qu'il n'y en aurait pas.
On est d'accord, je ne me trompe pas.
Pas savoir, ça.
De Paille, non, du gars.
Pas savoir, mais
c'est difficile de faire une comparaison.
Tu prends poste par poste. On est aujourd'hui, il y en a les 3 ou 4 qui seraient à la limite sur le banc. Donc, ouais. Déjà, il y a un problème de talent. Déjà, pour répondre à ce que Jean-Michel disait, pour moi, il y a un problème de talent. Maintenant, il y a un deuxième problème aujourd'hui. Je pense que, et c'est un phénomène de société aussi actuel, les réseaux sociaux font beaucoup de mal à des joueurs. Les agents font peut-être plus de mal qu'autre chose à des joueurs. Et il y a un gros problème pour moi aujourd'hui. C'est que certains joueurs, on le voit, gagnent plus d'argent à faire des photos, à mettre sur Instagram, à mettre sur Facebook et à se prendre en photo avec un mojito en terrasse qu'à sur le terrain et à mouiller le maillot. Donc je pense qu'il y a un problème aussi de là. Maintenant, pour répondre à la question d'origine, je pense honnêtement que Juninho, avec la mentalité qu'il a, avec le charisme qu'il a, je pense que oui,
en effet, il va changer les choses.
Il va changer les choses. Okay. Je vais poser une question à Jérôme. T'as joué contre lui ou pas?
Bien sûr.
Oui, bien, plein de fois, oui.
Voilà. Moi, je l'ai vu. Moi, je fais partie de ceux qui étaient en tribune et qui l'ont admiré. Je trouve que ce mec avait été bourré de talent, mais tu vas mieux savoir que moi. Mais sur le terrain, je trouve que c'était une PUT, entre guillemets, tu vois. Je le trouvais vraiment hargneux.
Il y avait un peu de vice, on va le dire comme ça.
Il y avait du vice, il y avait un peu de peut-être des fois un peu de méchanceté. Il a quand même pris beaucoup de cartons rouges aussi. Ah, je trouve, en tout cas.
Et Jérôme, tu as ce souvenir-là?
Non, bon, moi, après, c'est pas à travers ses gestes sur le terrain, plus par la parole, oui, en effet, mais tu sentais que il aimait pas perdre, c'était un hargneux, il poussait les autres, ça c'est sûr que c'était un vrai leader aussi, un leader technique, mais surtout
un leader. Un chat, excuse-moi l'expression, alors ça va faire bondir, je m'en fiche, ça sera pas la première fois, mais il faut un peu plus de cons sur le terrain, un peu plus de connards, quoi. Au bout d'un moment, non mais il en manque aussi de ça, et à notre époque, il y en avait plein, au bout d'un moment, ça se joue aussi dans la parole, il y avait des matchs qui se gagner dans la parole, il y avait dans l'intimidation, il y avait dans le regard, il y avait des matchs, il faut retrouver un peu de ça aujourd'hui c'est plus possible d'avoir le football d'avant avec des tacles qui étaient parfois assassins où l'arbitre voyait rien, ou ça c'est plus possible, mais tant mieux pour le football.
C'est à la marge ça, Christophe.
Mais il y a un caractère, il y a quelque chose à redonner, il faut le joueur, le talent, les joueurs talentueux, de toute façon on les aura plus parce qu'on n'a pas les moyens de les avoir, les joueurs talentueux, au bout d'un mois il faut retrouver des joueurs qui en ont dans le pantalon.
Quel gars tu as, du gars, mais pourquoi t'arrêtes là, c'est incroyable, t'as placé plein de convictions. Tu devrais peut-être toi aussi aller à la Fédé.
Bon Jean-Louis, je t'aurais pris sous mon aile, t'aurais fait une carrière de fou, je te le dis de suite.
De quoi? De joueur?
Ben oui.
Qu'est-ce que tu racontes? Il est fou lui.
Il t'en manquait quelle mentalité?
Oh, il me manquait plein de trucs. Effectivement, Juninho, pour être précis, il a pris 5 cartons rouges dans toute sa carrière. Donc voilà pour Charles. L'info et Captain, tu demandais le nombre de matchs de Thiago Mendes. C'est ça, 33 matchs avec Lyon, toutes compétitions confondues.
Donc voilà. Qui a été nul et il a été souvent titularisé.
Il a beaucoup joué, effectivement. Merci Charles d'être venu au 32-16. Tu reviens quand tu veux sur RMC dans Team Duga. À bientôt. On remercie Mohamed Bouafsi également.
Merci, bonne soirée.
Voilà donc pour ce débat autour de Juninho. On revient dans un instant avec Adrien Aigouin et son fameux journal moyen.
RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Team Duga.
Un débat original après 19h, ne ratez pas ça. Thierry Roland, était-ce le meilleur au commentaire? Chacun va donner sa sensibilité. Est-ce qu'il attend d'un commentateur lors d'un match de foot? C'était passionnant cette semaine dans Team Duga. Et puis vous aurez droit également à la proposition de coach Courbis pour reprendre au mieux la saison prochaine en Ligue 1. Tout de suite, c'est le journal moyen.
À la une du journal moyen de Team Duga aujourd'hui sur RMC. Petit problème technique dans l'after pour Lionel Charbonnier au tout début d'émission. Ça arrive parfois, tout n'est pas en place. Des nouvelles de Cristiano Ronaldo qui va très très bien dans la vie, il y a des gens qui vont bien, lui il va très très bien. Et puis Tim Duga va analyser la com de deux joueurs de foot de Ligue 1, deux communications différentes. Vous êtes des spécialistes de la com et du foot, Duga. On va profiter de votre expertise. Duga, ouais. Alors j'ai réécouté effectivement au début de l'émission Franck Leboeuf, c'est ce qu'on appelle être véritablement sur un fil. Effectivement,
c'est vrai qu'à Neymar en pleine forme, il fait partie des trois meilleurs joueurs au monde, enfin des trois joueurs que tu viens voir.
Ah, elle est pas mal quand même.
Ouais, on est sur un fil,
oui,
on perd l'équilibre, mais on tombe pas du fil.
J'ai fait mieux.
C'est marrant comment c'est plus fort comme ça, isolé.
C'est toujours plus fort isolé.
Ouais.
C'est le 333e journal moyen de l'histoire de Team Duga.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Team Duga.
Adrien Aigouin.
Et on
débute avec un point after, s'il vous plaît.
Vas-y, je te laisse, c'est fini.
Non, mais attends, tu veux que je te dise, là, pour la première fois en 10 ans, je me suis vraiment rendu compte que je t'ai coupé la parole.
Non. Enfin, c'est un peu l'histoire de l'after. After de vendredi, 22h05. Un début d'after un peu compliqué pour Lionel Charbonnier. Willy Sagnol termine son propos sur les finales de Coupe, Coupe de la Ligue et Coupe de France. Et Lionel se gratte la tête. Et il y a un problème, ça ne lui va pas du tout.
Je pense pas qu'il y ait des données économiques derrière. Je pense que c'est plus d'une donnée philosophique.
Bah, la Coupe de France, ouais. Willy, c'est quand même plus, plus la Fédé. Coupe de la Ligue, c'est plus la Coupe de la Ligue.
C'est ce qu'on a dit, oui.
Non, la Coupe de la Ligue, c'est, pour moi, c'est plus la Coupe de la Ligue que la enfin, c'est pas la Coupe de France, voilà, ça n'a rien à voir pour la Fédé.
On comprend rien, là.
Là, il est passé à niveau.
Pardon, mais Nico Villas fait une grosse erreur.
Oui.
D'intervenir à la fin.
Nico Villas, on appelle ça un bon compagnon.
Jean-Luc Tour, on appelle ça un chien.
Nico, prends exemple sur nous. Quand Frag se noie tout à l'heure, on le laisse se noyer.
Silence complet.
Bien sûr.
À cause de Nico qui intervient, Nico Villas, la suite est beaucoup plus claire.
La Coupe de la Ligue, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est pour la Ligue. C'est pas pour la Fédé.
Mais c'est ce qu'on a dit.
C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit.
Ah, j'ai compris. Parce que j'avais compris que tu disais que comme la Coupe de la Ligue, la Fédé.
Non, ce que disait Willy, c'est il défend aussi le fait que la Coupe de la Ligue se maintienne.
N'interviens plus, Nico. C'est la dernière fois que tu interviens.
La différence avec moi, c'est que je trouve que Lionel est têtu.
Oui.
Quand il repart et tout, c'est génial.
Bon, voilà. On est quand même loin de la Ligue des Champions. On est loin de Chelsea. On est loin des Blues. On est loin de Franck Leboeuf, quand même.
Vu le fait que les joueurs soient ses meilleurs joueurs, enfin en tout cas les trois dans le groupe, trois joueurs importants sont partis.
C'est extraordinaire. Plus je l'écoute, plus je l'aime. Oh, c'est extraordinaire.
Ouais, tu le sais sur les cinq premiers mots qu'il ne sait pas du tout où il va. Oui, j'ai fait 7 ans à RMC, il restera que ça.
Non, aujourd'hui. J'ai Adil Ramzi aussi, mais bon, plus tard.
Ah oui.
Pour bien suivre à Valence ce qu'il a dit, Adil Ramzi. Sans transition, la phrase du week-end nous vient des Pays-Bas. Alors là, vous allez analyser cette phrase. L'ancien joueur Wesley Sneijder a répondu à une interview de Gianluca Di Marzio, journaliste très connu de Sky Sport en Italie. Vous aurez noté l'accent. Alors, je vois le titre de l'interview, parce que ça m'a quand même attiré l'œil. Il déclare « J'aurais pu devenir comme Messi ou Cristiano Ronaldo », nous dit Sneijder. Il dit « J'aurais pu devenir, précise-t-il, comme Messi ou Ronaldo, j'en avais tout simplement pas envie ».
Non, mais ce qu'il aurait pu être comme Messi ou Ronaldo, il a fini comme Jeannot. C'est marrant, ça, quand même. Ouais, c'est énorme, ça.
Non, mais alors écoutez la suite. Il explique quand même, parce que le garçon n'est pas bête, il est intelligent. Il dit J'ai apprécié ma vie. Je prenais parfois un verre de vin au dîner. Donc, ça, je traduis en tant que spécialiste, ça veut dire plutôt 10. Léo et Cristiano sont différents. Ils ont fait de nombreux sacrifices. Ça ne me dérange pas. Ma carrière a néanmoins été incroyable. Mais s'il n'avait pas bu un verre de vin le soir, il aurait été comme Messi ou Cristiano.
Ça suffit. Non,
c'est pas scientifique, ça, quand même.
Non, mais c'est pas que le verre de vin. Il t'explique qu'il n'était pas assez sérieux pour que par rapport aux autres. Voilà, maintenant c'est un joueur énorme. Je t'en ai dit, on ne les connaît pas quand même.
Quand il était à l'Inter, il était extraordinaire.
Il aurait pu avoir le ballon d'or.
Après, j'aurais pu être Messi ou Ronaldo. Ouais. Non, mais ce qu'il veut dire.
C'est
ce qu'il
bien un néerlandais qui se la raconte, ça.
Après. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il avait. Il était très fort et qu'il avait potentiel à être encore plus fort, qu'il a peut-être caché.
Ça d'accord. Mais rappelle-toi, c'est quand même très haut.
Tu dois pas le dire.
Tu dois le dire. Mais si Sneijder, il ne peut pas le dire, qui peut le dire alors, les amis?
On parle plus
là. On parle plus à la radio alors les gars, si je n'ai rien à peut pas dire ça.
Mais toi t'as jamais dit Eric que tu voulais être, je sais pas.
Et ben justement, vous voulez t'en parler Eric, faut peut-être parler.
Ouais, il faudrait que tu arrêtes la radio justement. Hazard, il a fait une interview il y a pas longtemps où il t'explique que lui il s'en fout de les titres honorifiques comme ça ou les machets ou trucs, il s'en fout.
Ouais, mais il dit pas qu'il aurait été aussi bon que Ronaldo et Messi.
Non,
c'est ça le problème,
parce qu'il dit qu'il est encore en activité, que peut-être un jour il sera aussi fort que.
Non, tu demanderas quand il arrivera. Tu dis pas.
Eden, bonjour. Sans transition, c'est l'instant Cristiano.
Pardon, Chris!
Oui!
Et qui ose critiquer Cristiano?
Pardon, je t'ai critiqué!
Arrêtez de le critiquer!
Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde!
Oui!
Donc, les deux se parlent là ou quoi? La réalité. Jérôme, il parle à.
Non, c'était un débat en fait en direct à la radio.
C'est un débat en direct.
Cristiano Ronaldo, le Portugais, a encore battu un record. Ah bah, du coup, là, sans jouer. Il a battu le record la semaine dernière. Je vous ai parlé du classement du magazine Forbes, le top 100 des sportifs qui ont gagné le plus d'argent dans l'année. Oui. Donc, déjà, il était bien classé. Il était deuxième, monsieur Cristiano.
Bravo.
Tout à fait. Et du coup, il a quand même battu un record. Il devient le premier joueur de foot à atteindre le milliard de gains en carrière. $1 milliard. C'est très symbolique puisque c'est le premier joueur de foot de l'histoire.
Il y avait Tiger Woods qui l'a fait.
Alors justement, il y a trois autres sportifs qui ont un jour dans leur vie atteint le milliard de gains.
Il y a un boxeur, il y a un boxeur.
Il y a Tiger Woods, Federer et Michael Jordan.
Et non, Federer, bizarrement, n'a toujours pas atteint un milliard. Il devrait les atteindre en
2021. Mayweather.
Tiger Woods, Michael Jordan et Floyd Mayweather, le boxeur. Bien joué, du gars. Tu vois, dès qu'on parle de.
On était là.
On espère. Suspense, Federer, j'espère pour lui, va réussir
Beckham,
à rejoindre.
Mais il est pas arrivé au milliard, Beckham.
Non.
Et là, t'as aucun membre de la Dream Team là-dedans.
Ben, a priori, non. On parle en dollars, un milliard de dollars, je sais pas.
Ah, 200 dollars, je pense.
On a raté d'un million ou deux.
Après, si Eric fait 10 ans de plus à RMC, on sera pas. Après, est-ce qu'on parle de l'argent au black que les mecs? Parce que.
Aujourd'hui ça se fait moins, mais peut-être qu'à l'époque ça se faisait plus.
Eric,
il pas de Vincent. Il y en a, ils sont allés jouer dans des pays exotiques.
Oui, Dugas.
C'est pas beau de parler de Vincent
Des anciens Marseillais qui ont fini à Monaco leur carrière, par exemple.
Aussi.
Avec un nom italien, ça peut s'arranger.
Tu crois que je parlerais avec toi tous les jours si j'avais gagné un milliard au foot, moi? Non, mais dis-moi la vérité. Non, mais ça me déconne.
Par passion. Par amitié du sport, de la radio.
C'est pas faux.
Ah oui?
C'est pas faux.
Il faut bien que tu t'occupes si tu gagnes un milliard.
C'est vrai que tu t'emmerdes, tu as raison, je serais peut-être avec toi.
Tu n'aurais pas connu Kikadi, Eric.
Tu as raison, je serais présent aussi des gros Kikadi.
Qu'aurait été ta vie sans le Kikadi?
Tu passerais pas pour un mec sympa, en fait.
Ah là, il passe pour un mec sympa.
Et, bah oui.
Ça dépend des joueurs.
Il est sympa.
Non, mais parce que quand tu étais joueur de foot, tu passais pas pour un mec sympa, Eric Dimeco.
Non,
là, tout le monde pense que Eric Dimeco est un mec sympa.
Oui. Bien sûr, mais Dugas le dit tous les jours.
Bon, il dit que c'est un con, mais il dit un mec sympa.
Voilà donc pour le journal moyen d'Adrien Aigouin. Rendez-vous lundi en direct à 18h45 pour le retrouver. On revient après les infos de 19h avec notre débat autour de Thierry Roland. Était-ce le meilleur dans son rôle? À tout de suite.
RMC 18h20h, le meilleur de Tim Dugas.